Jeunesse par Arne Garbor. Anne Malène était une ravissante fillette, habile à voler du sucre et habile à mentir. Quand elle avait fait une visite au garde-manger ou à la chambre aux provisions, et s'était bourrée à souhait de sucre et de tout ce qui lui semblait bon et doux à manger, et que sa mère, la surprenant, se mettait à la gronder, elle savait s'en tirer si bien que mère Astrid s'y laissait prendre, et bien vite la fillette courait auprès de son petit ami Peur pour lui raconter en riant la chose, se vantant de savoir si bien duper les grandes personnes. « Bah, quand tu rentreras, tu seras battu, » disait Peur. « Oh, il n'y a pas de danger, mère Astrid n'est jamais longtemps fâchée contre moi. » Petit Peur, le fils de Thierran, de Ready Garden, avait sa peine avec Anne Malène. Elle voulait toujours être sa femme. S'il refusait, elle le battait. S'il consentait, elle le tyrannisait, lui imposait ses caprices, le tourmentant jusqu'à ce qu'enfin, là du jeu, il s'écria « Assez !» ce qui, à nouveau, lui attirait des coups. Mais s'il pleurait, Anne Malène devenait douce et tendre et imaginait tant de drôleries que Peur, pouffant de rire malgré lui, ils riaient tous deux à qui mieux mieux. Petit Peur, oubliant son chagrin et sa colère, cédait et recommençait à jouer au mari avec autant de bonne volonté et de patience comme s'il eût été payé pour cela. Anne Malène n'avait pas moins de chance à l'école qu'à la maison. Personne n'était jamais longtemps fâché contre elle. De préférence, elle allait se fourrer avec les garçons et ceux-ci ne s'en plaignaient pas car elle les amusait beaucoup. Bientôt, elle les gouverna et peu à peu, toute la petite bande devint tout à fait mélancolique à cause d'elle. Inénarrables les hauts faits que chacun d'eux inventa pour devenir son préféré. Ils s'ensanglantèrent réciproquement le nez, traversèrent ruisseaux et torrents, se hasardèrent sur la glace prise de la veille, grimpèrent sur les toits des écuries et des granges et s'y pavanèrent comme des cigognes. Quelques-uns apprirent même à jurer et les plus âgés s'essayèrent à fumer. Elle ne les lâchait presque plus et disait « Sacrebleu !» et « Que le diable m'emporte !» avec autant de désinvolture qu'un gamin en tirant d'aussi grandes bouffées de sa pipe que les plus forts d'entre eux. Et elle faisait des grimaces et était drôle à mourir de rire. En classe, Anne Malène ne se tenait jamais en place et ne savait jamais sa leçon, mais le maître d'école ne lui faisait pas d'observation ce que chacun trouvait naturel. Avoir appris si peu à l'âge de la confirmation aurait pu, il est vrai, lui nuire. Elle ignorait jusqu'aux 10 commandements de Dieu. Mais heureusement, le prêtre s'aperçut tout de suite que c'était une bonne petite fille, il le vit à son sourire et d'ailleurs, le bon Dieu lui fera bien passer au moment voulu cette trop grande pétulance. Bref, Anne Malène reçut une des meilleures notes en religion. Elle en rit de tout cœur, contente d'avoir su duper même un prêtre. L'église, tout en pierre de taille, était grande pour un village. Seules les fenêtres, placées très haut, semblaient étroites. Mais le blanc soleil de septembre entrant en large bande animait la nef par les brusques alternances d'ombre et de lumière, réveillant les murs blancs, unis et nus, pareils à des murs de prison, leur donnant presque une physionomie en contraste avec leur habituelle gravité vide de pensée. Vu du haut de la galerie, les blanches bandes de lumière, semblables à des spirales de soleil, divisaient l'église en plusieurs parties. L'église était comble. Il y couvait une lourde et accablante somnolence. Tout au fond, devant l'autel, se tenaient en deux longues rangées les catéchumènes, fatiguées et pâles. Le prêtre, un jeune homme doux à la voix chantante, passait au milieu d'eux, les questionnait sur le Christ, les grands prêtres, les prophètes et les rois. L'examen terminé, il leur répéta dans le discours final combien était sérieux et plein de responsabilité l'acte qui restait à accomplir, qu'il s'agissait d'approcher et de prêter serment, non pas comme des enfants qu'on y contraint, mais en toute liberté de volonté et de cœur, car Dieu déteste la contrainte et veut des serviteurs volontaires. Après avoir ainsi fatigué les catéchumènes au point que ces paroles ne leur arrivaient plus que comme des appels lointains, des sons indistincts perçus dans un rêve, il dit « Amen ». Un soupir de réveil, d'allègement traversa la nef et un bruit de nez se mouchant, de quelques centaines de nez se mouchant à l'unisson. Puis le prêtre s'adressa au bon Dieu, l'implorant d'aider ces jeunes gens à tenir leur serment, car si lui ne les aidait, on savait d'avance qu'il n'y parviendrait pas. Et il s'étendit sur ce sujet jusqu'à ce qu'enfin sa voix, de plus en plus enrouée, l'avertit qu'il était temps d'en finir. Toute l'assistance partageait son avis, surtout la jeunesse. Les spirales de soleil avaient tourné, tourné dans le vaste espace comme les aiguilles sur un cadran solaire. Elles s'inclinaient prêtes à disparaître. Du haut de la galerie retentissait le psaume de la confirmation dans le mouvement lent et grave d'un choral. Lourde et vibrante, une voix de basse, douce, un peu voilée, celle d'un ténor. L'assistance entière se joignait au chant, et le psaume achevé, la jeunesse, par rang d'âge, s'approcha de l'autel, les sanglots augmentaient. Ils étaient 81 catéchumènes, 38 garçons et 43 filles. Enfin, là lui-même, le prêtre les expédia tous, l'un après l'autre, aussi vite que possible, et tous ils jurèrent de renoncer à Satan et à ses œuvres, de croire en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de demeurer dans cette croyance jusqu'à la fin de leur jour. Et ils prononçaient tous le serment avec tant d'assurance, un accent si uniforme, une telle volubilité, que toute la paroisse dut en être édifiée. Pour les premiers, on pleurait. Au second, on semblait plus calme, et au suivant, on n'écoutait plus ni n'entendait ce que tous savaient par cœur. L'assemblée était exténuée, les rays du soleil s'éteignaient, l'obscurité du soir enveloppait l'église. Enfin, Anne Malène était jeune fille. Toute la journée, elle s'en glorifia. Enfin libre. Dès maintenant, il ne lui restait qu'à se fiancer. Peur pouvait venir quand il voudrait. Mais non, elle ne l'acceptera pas immédiatement. Elle commencera par jouer un peu avec lui. Pendant quelques années, elle veut profiter de sa jeunesse et de sa liberté. On n'est jeune qu'une fois, et il est toujours temps de se marier. Anne Malène riait en pensant à tous les plaisirs qui l'attendaient jusqu'à sa 20e année. Il y avait tant de jeunes gens avec lesquels elle pouvait s'amuser jusque-là, et, se disait-elle, d'autant plus agréablement que tous savaient que ce serait peur qu'il épouserait. À la maison, un dîner substantiel l'attendait. Deux de ses tantes étaient venues exprès pour la circonstance, et le vieux Matisse, frère de son père, versait de l'eau-de-vie. Dans la soirée arriva, de son pas lourd, Peur, suivi de deux autres bûcherons. Ils apportaient leurs flacons d'eau-de-vie à eux. Peur en avait bu déjà en route un ou deux verres, et maintenant tous voulaient trinquer avec lui. Ah, qu'il était amusant, et les bonnes idées qu'il avait. Que c'est beau d'être jeune fille. Enfin, il s'approcha d'Anne Malène avec son verre. « À toi, la dernière, puisque tu es la plus jeune, » dit-il. « Les jeunes filles n'ont pas besoin d'eau de vie, » répondit Anne Malène. « Mort et diable, » jura Peur. « Tu boiras, puisque c'est la première fois que je t'en offre, et ce ne sera pas la dernière. Hé, buvons ! D'abord toi, puis moi. Fais-tu la mijaurée ?»« Non, cela ne lui serait jamais venu à l'esprit. » « Où es-tu une sainte ?»« Oh, encore moins !» Tous riaient. « Fais-tu partie d'une association de tempérance ?»« Ni de celle-là, ni d'aucune autre. »« Eh, il en est bien une dont tu feras partie un jour. Mais d'abord, il faut que tu saches boire de l'eau-de-vie. Hé, buvons ! D'abord toi, puis moi. Hé !»« Tu peux bien en prendre une gorgée, puisque c'est Peur qui te l'offre, » hasarda mère Astrid. « Certainement, » affirma le vieux Matisse. Anne Malène, étonnée, trouva l'idée drôle. Elle prit le verre et, disant « Scal !», y mit les lèvres. « Vide-le donc !» s'écria Peur. Mais les autres trouvaient qu'elle en avait bu assez. « Assez ? Déjà ? Écoute, si tu es aussi petite mauviette que buveuse, je te prends pour femme. » Vivement, elle posa le verre sur la table. Il lui fallut sortir pour pouvoir éclater de rire. Peur la suivit. Les autres se mirent à leur partie de Hemcourt. Lorsque Anne Malène rentra, elle était fiancée. Mais personne ne devait s'en douter. « C'est plus amusant comme cela, » dit-elle. Elle vida un second verre, et les vieux s'entre-regardèrent avec un sourire d'intelligence. Anne Malène prit ses fiançailles un peu à la légère. Peur se fâcha. Ils se raccommodèrent, mais ce ne fut pas pour longtemps, et Peur se dit « Elle manque de sérieux » et se mit à bouder. Anne Malène fut bientôt lasse. Elle le gronda et, pendant bien des jours, ils se regardèrent de travers. « Tu me le paieras, » pensa Anne Malène, « d'avoir voulu me gâter mes jeunes, mes bonnes années. » Enfin, ils se brouillèrent complètement, Peur ayant trouvé à une noce dans le voisinage qu'elle s'occupait trop d'un jeune marin. Cette fois, leur inimitié dura. Peur pensait que c'était à se suicider, mais il ne voulait pas céder, il était trop fier pour cela. ce fut Anne-Malène qui céda. Elle l'accosta et lui demanda s'il était naturel de se promener ainsi seul à fabriquer du vinaigre. Ils se réconcilièrent pour quelque temps et se jurèrent réciproquement d'être plus raisonnables à l'avenir. Mais Anne-Malène ne sut pas ne pas être aimable avec tout le monde et Peur ne sut pas cacher sa jalousie, de sorte qu'ils en arrivèrent à une nouvelle querelle. Anne-Malène déclara à Peur que sa manière d'être ne lui convenait pas, qu'elle voulait un garçon gai et entrain, et non pas un trouble-fête comme lui. Peur, effrayée, se rendit chez Mère Astrid et lui demanda en cérémonie la main de sa fille qui, à sa grande joie, lui fut accordée. Puis il retourna auprès d'Anne-Malène et lui déclara que maintenant elle serait à lui, qu'elle chantât ou qu'elle rageât. Anne-Malène jugea ces paroles si déplorables qu'elle eut envie de rompre tout de suite. Mais Peur mit tant d'insistance à la supplier de lui pardonner qu'elle y consentit, n'ayant pour l'instant personne d'autre à aimer. Mathis Passegarde possédait une forêt qu'il désirait vendre. On disait que l'État voulait l'acheter. Du moins, le nouvel employé des eaux et forêts, M. Jens Karlstadt, était venu à plusieurs reprises lui en parler. « L'État pourrait en avoir besoin pour arrondir un de ses domaines, disait-il. Cela dépendait surtout du prix, car ainsi que Mathis le savait, le Starthing ne payait jamais cher. » Le jeune monsieur aux belles moustaches et au sourire aimable plut à Anne-Malène, et Jens Karlstadt se sentit en bonne camaraderie avec elle avant de s'en rendre compte. Jusqu'à présent, il n'avait jamais été à l'aise avec aucune femme, ni en ville, ni à la campagne, pas même avec sa fiancée. Mais avec Anne-Malène, cela allait tout seul. « Quelle bonne petite créature joyeuse » pensa-t-il. Et à la ferme, on lui faisait si bon accueil, on lui servait du café et des gâteaux, et il en mangeait et buvait, causant avec tout le monde, sans hâte de partir. Il revint plusieurs fois pour parler avec Mathis de la vente de la forêt, et demander à Anne-Malène si elle savait enfin dire « employer des eaux et forêts ». Mais pour le taquiner, elle continuait à l'appeler « monsieur l'employé des postes » et écorchait ses mots à faire rire le raisonnable jeune homme comme un gamin. Et alors sa langue à lui aussi commença à se délier, de sorte que lui qui jusqu'alors avait été muet comme une sentinelle devint bavard comme un épicier. Et Anne-Malène ne se faisait pas demander deux fois une conversation divertissante. Elle riait avec lui de choses auxquelles les femmes de la ville n'osent même pas faire allusion, et était fraîche et vive comme une jeune chatte, et combien innocente, une vraie enfant. Jens Karlstadt revint un jour où les vieux étaient absents. Il ne les regretta pas, car Anne-Malène le reçut, et assis l'un à côté de l'autre, ils bavardèrent longtemps sur des riens. Jens Karlstadt rentra avec des pensées souriantes. Il s'avoua qu'il était amoureux de la fillette. Non pas précisément amoureux, mais il la trouvait si différente de toutes les femmes qu'il connaissait. Dans sa province, les jeunes filles étaient tout autres, même les filles des fermiers, comme ses sœurs par exemple, et celles de la ville encore plus. Et cette fillette-là se donnerait un lourdeau à cet idiot de Peur? C'est trop bête, d'autant plus qu'elle ne tient naturellement pas du tout à ce gars. Jens sourit. Lui-même, il ne demandait rien à la jeune fille, cela se comprend. Il était fiancé, il avait des principes et, bref, il était fiancé. Et il aimait Jenny, il la respectait. C'était une femme supérieure, distinguée, pâle, sentimentale, bonne éducation, du piano, de l'allemand, du français et de l'anglais, le sentiment de la poésie et de la nature, en un mot, telle que devait être la femme qu'il épouserait. Anne-Malène, la pauvre petite, n'était que fraîcheur et santé, et pourtant, il ne savait pourquoi, mais elle l'égayait, le rendait heureux de vivre. Jenny, naturellement, c'était autre chose, distinguée, posée. Lorsqu'il s'était épris d'elle, elle ressemblait bien, elle aussi, à un jeune chat sauvage, mais elle n'avait alors que 13 ans, et depuis, elle avait eu un léger caprice pour son professeur de piano. Dieu sait si ce n'est pas cet homme qui lui a donné le coup des arts, mais qu'importe. Le principal, c'était qu'elle lui répondu par un « oui » à sa demande en mariage, écrite en bon danois, orthographe irréprochable. Il n'avait pas bien souvent causé avec elle. 3 fois, il lui avait donné un chaste baiser, ou plutôt 2 fois, car la troisième, il n'avait pas rencontré sa bouche. C'était tout. Tandis que cette follette-là, si l'on savait seulement comment ces choses arrivent. Ce jour-là même, sans dire un mot, sans réfléchir, inconsciemment, il l'avait embrassée. Sans se demander même si c'était un baiser chaste ou non. Ah, il s'était jeté sur elle comme un fou. Non, ce n'était pas un baiser chaste, c'était un baiser sensuel. Ah, elle ne s'était pas fâchée, pas plus qu'un petit chat auquel on passe la main sur le dos. Quel doux enfant. Et Jens Karlstadt se sentait très immoralement heureux. Ouf, heureux. Non, il ne le fera jamais plus, jamais plus. Il pouvait causer avec elle, même badiner un peu si l'occasion s'en présentait, mais en tout honneur. Et ce qui s'était passé ce jour-là devait être oublié, précipité dans le l'été. Oui, le l'été. Il causait avec Anne Malène, badinait même un peu avec elle si l'occasion s'en présentait, mais en tout honneur, lorsqu'un jour. Jens était un misérable. Il l'avait séduite, la pauvre enfant, qui avait une confiance absolue en lui, et maintenant, elle savait ce qu'il valait. Et Jens Karlstadt s'injuriait, se fâchait, s'échauffait contre lui-même tant qu'il pouvait, et tout à la fois, il était heureux, 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 car elle l'aimait. Elle, la ravissante jeune fille, l'aimait. Oh, il était un misérable. Non, pourquoi un misérable? Il ne l'avait pas séduite. C'était arrivé inopinément, comme un accident, comme un ouragan, dont personne ne sait d'où il vient ni où il va. Elle était si délicieuse. Trop, trop, mille fois trop délicieuse. Et il oubliait ses principes, il oubliait tout, et ne voyait qu'elle, charmante, ensorcelante, toute femme, avec un sourire si voluptueusement criminel aux lèvres, et des yeux limpides, innocents, nageant en une tiède lueur. Il la voyait à travers un brouillard, une ivresse. Il ne savait pas l'amour si puissant. Personne ne le sait. Ils parlent tous d'un amour intellectuel et moral, et d'un amour sensuel et immoral, malédiction de Satan. Mais personne n'entend rien à l'amour, car l'amour n'est ni moral ni moral, mais plus fort que la mort. Et maintenant, Anne Malène ne serait jamais plus à lui. Après, elle n'avait rien dit, pas un mot, pas même levé les yeux. Elle n'avait fait que s'en aller, pâle et farouche. Elle était fâchée, il en était sûr. Elle le raconterait à ses parents. On voudrait le forcer à l'épouser, ce serait un scandale. On le saurait dans la ville. Et comme il ne peut pourtant pas l'épouser, Anne Malène mourra, deviendra folle ou femme perdue. Quel misérable il était. Et sa conscience brûlait comme une fournaise. Et malgré tout, il était heureux. Il n'en croyait pas un mot de toutes ces vilaines choses qu'il se disait à lui-même. Il savait qu'elle l'aimait, et... Pardieu, c'était trop infâme. La vérité était pourtant qu'elle ne lui en voulait pas du tout. Par hasard, ils se rencontrèrent un jour. Elle rougit et pâlit. Ils s'arrêtèrent et échangèrent quelques mots. Si ces mots avaient un sens, il l'ignorait. Mais soudain, il saisit ses mains et se mit à lui demander pardon, pardon. Et elle a prié de ne pas lui en vouloir. Il n'avait jamais eu de mauvaises intentions, c'est-à-dire qu'il ne voulait que lui demander pardon. Elle retira ses mains, disant qu'il devrait être plus réservé une autre fois, ou moins vif, ou... et partit. Mais tout à coup, elle se retourna et lui cria en riant « Monsieur l'employé des postes !» Il redevint celle d'autrefois, gaie, confiante, candide. Elle n'avait commis aucun péché. Il lui fallait réfléchir pour savoir que le lourd péché qui l'accablait avait été autre chose qu'un songe. Depuis lors, ils étaient amis. En haut d'une colline, ils découvrirent un bon endroit pour leur rendez-vous, auprès d'une pierre massive, sous laquelle ils installèrent leur bureau de poste. Là fut leur univers, le reste du monde n'exista plus pour eux. Néanmoins, Jens Karlstadt demeura un homme à principe. En se rendant à la pierre, il se faisait chaque jour un discours, se répétant combien c'était infâme et qu'il ne le referait jamais plus. Puis en rentrant, il se torturait tant qu'il pouvait, se sentant un misérable. Anne Malène, autant qu'il en pouvait juger, n'était pas aussi sévère envers elle-même. Elle ne paraissait pas souffrir de la mauvaise conscience. Elle regardait son ami Jens Karlstadt aussi franchement et avec autant de candeur qu'auparavant, et restait enjouée et joyeuse tout comme autrefois. Elle n'avait cure des on-dit. C'était comme si elle ignorait avoir commis une faute. Jens Karlstadt s'en étonna, et ne pouvant concevoir cette quiétude, s'en inquiéta. Que les hommes commettent des péchés, c'est dans la nature. Nous sommes tous des pécheurs. Mais qu'on puisse faire mal sans que la conscience en souffre, cela le surpassait. Il se mit à faire de la morale à Anne Malène. Il la fit penser au Bigde et au cancan du Bigde, le village. à tout ce que les gens pouvaient dire d'eux. Mais Anne-Malène lui répondit qu'elle se moquait du Big Day, des cancans du Big Day, que d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas ne les regarde pas. En riant, elle lui raconta à quel point elle savait mentir et tout ce qu'elle comptait à ses vieux pour pouvoir venir auprès de lui et les histoires qu'elle inventait, car Peur avait des soupçons. Elle lui faisait constater que ce n'était pas aussi facile d'être Anne-Malène qu'il avait l'air de le croire. Jens Karlstadt se sentit saisi de terreur. C'était trop. La jeune fille manquait absolument de conscience. Habituée à faire tout ce qui lui passait par la tête, elle était semblable à une sauvage qui ne sait distinguer entre le bien et le mal. Son devoir, lui, était de l'instruire, de lui faire comprendre sa faute, de la rendre une femme morale. Sérieux, sombre, il lui dit toutes ses vérités. Anne-Malène, fâchée, répondit « Vas-tu commencer des grimaces ? Je n'aurais jamais cru que tu t'amuserais à faire le saint découpé dans un livre de prière. Autrefois, tu étais aimable et gai et tu me plaisais. Mais maintenant, tu es comme une litanie, tu fais les yeux blancs et tu deviens désagréable et ennuyeux comme Peur. T'es jamais contrarié ? N'ai-je jamais cédé ? N'ai-je pas fait tout ce que tu m'as demandé ?»« Oh oui !» Jens ne pouvait le nier. Mais il fallait justement lui faire comprendre qu'elle avait eu tort de céder, qu'elle avait agi sans réflexion et péché contre toutes les mœurs et convenances, et que la seule excuse qui lui resta était d'avoir perdu la tête. Ils s'emportèrent, et après une courte mais vive discussion, Anne-Malène lui donna un soufflet. « Voilà !» s'écria-t-elle, rouge de colère. S'il était un livre de messe, un loup-garou bourré de sentences, eh bien, il était autre qu'elle ne l'avait cru. Quant à elle, elle avait du temps devant elle pour pleurer et chanter des psaumes, ça ne pressait pas. Et elle partit. Jens Karlstadt rentra chez lui, l'oreille basse, et dans sa tête, tout était noir. Pendant 2 jours, il fut comme fou. Il n'y pouvait tenir. Mais se soumettre, demander pardon, semblait impossible à son honneur, à sa dignité d'homme. Après s'être torturé à plaisir, il finit pourtant par écrire et redemander du beau temps. Puis il se cracha au visage, au figuré, naturellement. Et vers le soir, le cœur palpitant, la tête bouillonnante, il monta à la pierre pour voir s'il y avait une réponse. Dieu merci, il y en avait une. Oh, ces chères, chères, chères pattes de mouche, cette divine, cette céleste, cette folle orthographe. Sa lettre à lui, disait-elle, l'avait rendue si joyeuse. Les fâcheries étaient si laides, l'accord si beau, qu'il oublie ce qu'elle avait fait l'autre soir. Elle ne voulait pas le fâcher, mais c'était sa manière d'être. Jens Karlstadt revint en sautillant. Il ne pensait pas plus à son honneur qu'un vieux bouton perdu, et il se jura de ne jamais plus se brouiller avec elle. À leur première entrevue, il fut si tendre qu'il la baisa presque jusqu'au sang. Mais Anne-Malène était pressée ce soir-là. « Il m'espionne, » dit-elle. « Peur tourne autour de moi comme un chat noir autour d'une souris, et j'ai beau lui répéter 10 fois. « Que le diable m'emporte si je... »« Comment ? Tu jures ? » l'interrompit-il. « Non, » répondit Anne-Malène, « jamais si ce n'est pas nécessaire. »« Voilà qui est plus fort que tout, » pensa Jens Karlstadt. « Il faut que cela change. » Et il lui expliqua que les femmes qui se respectent ne jurent jamais, que c'est très laid et vulgaire, et qu'il fallait qu'Anne-Malène ne jurât ni ne mentît plus désormais. « Comment ? Ne plus mentir ?» demanda Anne-Malène. « Certes, plus jamais. Mais alors, comment ferais-je pour venir auprès de toi ? » ?»« Oui, oui, en effet, on trouvera des moyens. »« Recommences-tu à faire le livre de prière, etc., etc. ?» Et Jens à nouveau sentit brûler sa joue d'un soufflet qu'Anne-Malène lui appliqua en lui criant de prendre plutôt tout de suite le froc que de perdre son temps à la prêcher elle, car cela ne la ferait pas engraisser. Jens Karlstadt répliqua qu'il compromettait sa dignité d'homme en se laissant battre par elle et la quitta. Quelques jours plus tard, Jens Karlstadt reçut un livre de Mademoiselle Jenny et une lettre. Il était invité à lire ce livre et à bien s'examiner lui-même, et après, à confesser tous les troubles de conscience qu'il pourrait avoir. Le livre était « Le gant » de Bjørnstjerne Bjørnson. Jens Karlstadt le lut, et après cette lecture, se prit à philosopher. Les femmes se mettent-elles maintenant à faire de la morale, elles aussi ? Vraiment, Ska, il préférait Anne-Malène, qui ne connaissait qu'une morale, faire ce qu'elle voulait et ce qui... Mais cette morale-là, c'est vrai, dans un livre ne ferait pas bien, et l'on ne pourrait conseiller à tous cette liberté d'action. Mais pourtant, pourtant... Anne-Malène faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Elle faisait tout ce qui n'était pas bien. Néanmoins, il l'aurait jurée plus innocente que mille et mille femmes qui se pavanaient dans leur pudeur et criaient au scandale et rougissaient rien qu'à entendre nommer un vêtement aussi honnête et utile qu'un pantalon. Peut-être le péché ne la rendait-il pas coupable, justement parce qu'elle manquait de conscience. Saint Paul n'a-t-il pas établi que c'est la loi qui rend l'homme coupable? Et les livres saints ne disent-ils pas que l'amour efface tous les péchés? Et le roi Salomon, et Goethe, et Dieu sait qui encore, n'ont-ils pas proclamé que l'amour, l'amour... Et on voudrait l'empêcher d'aimer Anne-Malène, cette douce créature qui le rend si heureux? L'en empêcher parce que des gens que cela ne regarde nullement trouveraient que c'est immoral? Que lui importait la morale? Avait-il aidé à faire les 10 commandements de Dieu? Les avait-il seulement contresignés? Non, il n'était pas un misérable. C'est une bêtise que de se laisser torturer par la mauvaise conscience parce qu'on a fait une fois une chose dont on a eu envie. Pourquoi se priver de faire ce qui plaît et faire toujours ce qui nous ennuie et nous assomme? Qu'est-ce donc que la conscience? L'opinion publique en nous-mêmes, la sainte terreur devant les on-dit, la morale, vieil héritage démodé, cet instinct du troupeau inné, incarné en nous, qui nous fait distinguer un bien et un mal? Car si l'on est certain que tout le monde ignore une action, cette conscience n'est plus qu'une anxiété qui excite à l'idée que les autres puissent savoir. Anne-Malène avait raison. Ce que les gens ne savent pas ne les regarde pas. Par le diable, il voulait devenir libre penseur. Jens Karlstadt, terrifié, s'aperçut qu'il était en désharmonie avec lui-même. Toute sa vie, il avait été un homme à principe et tout à coup, il se trouvait avoir deux maîtresses, dont l'une le souffletait parce qu'il était trop moral, tandis que l'autre lui envoyait le gant. Certes, il avait mérité les deux, il était le pire des hommes, mais il voulait être pendu s'il y pouvait quelque chose. Pourquoi n'aimerait-il pas Anne-Malène? On vieillit assez vite et l'on se marie, ce qui veut dire un cilice, de la bouillie de gruau, les soucis d'une vie au jour le jour, et puis la goutte, le cercueil. On n'est jeune qu'une seule pauvre petite fois, et l'on ne profiterait pas de ces 5 ou 6 courtes années. Mais il vaudrait mieux naître avec des cheveux gris et déjà goutteux. Ou pourquoi ne pas se marier dès qu'on devient adulte? C'était là la question. S'il avait épousé sa Jenny à 16 ans, il n'aurait jamais fait de bêtises. Les femmes, naturellement, qui pour la plupart se marient à 17 ans, peuvent se passer... Jens réfléchit, s'échauffa. Pourtant, il n'osa aller jusqu'au bout de son raisonnement, dont certaines conséquences le froissaient. Seules 2 choses étaient positives, qu'il était un misérable et qu'il ne renoncerait pas à Anne-Malène tant qu'il la pourrait avoir. Mais l'autre... Oui, c'est cela. Il se mit à sa table pour écrire. Et dans sa lettre, il recommanda à Mademoiselle Jenny de relire elle-même le gant et de bien se demander si elle n'avait jamais eu un faible pour un autre homme que le sous-signé Jens Karlstadt. Mais que si elle avait eu ne fût-ce qu'un mot aimable pour un autre, elle le lui avoua et lui confessa tous les troubles de conscience qu'elle pourrait avoir. Jens Karlstadt se pencha sur la table éclatant de rire. Il se soupçonnait légèrement d'être un homme spirituel. En mettant la lettre à la poste, il crut avoir tué le coq. Quelques jours plus tard arriva la réponse, froide et sèche. « Tout est fini entre nous deux, Jenny Christiansen. » Jens Karlstadt avait une bonne figure ronde, mais tandis qu'il lisait ces mots, elle s'allongea étrangement. Personne ne pouvait nier qu'il eût de l'esprit, mais Jenny Christiansen n'en avait certes pas moins que lui. À qui, le premier après lui, enverra-t-elle son gant? Ils sont tous maintenant fiancés ou mariés. Mademoiselle Jenny est la fiancée d'un homme de 38 ans qui jure n'avoir jamais aimé d'autre femme qu'elle. C'est possible, il en a l'air. Jens Karlstadt se mariera sous peu avec une jeune fille à principe qui est de la conscience et de plus une dot de 80 000 couronnes. Et Anne-Malène est la femme de peur. Car peur n'était pas homme à renoncer à ses droits. Il avait entendu dire bien des choses et des choses très diverses sur l'employé des eaux et forêts et savait qu'Anne-Malène mentait en prétendant ne pas tenir à lui. Mais il la voulait, qu'elle chantât ou rageât. Un soir qu'il la poussait à bout, elle lui avoua même aimer Jens. Mais Peur se mit à sangloter comme si on le battait et s'en alla. Le lendemain, elle reçut une lettre dans laquelle il la suppliait de venir le soir à 9 heures à la Grande Pierre. C'était le dernier sacrifice qu'il réclamait d'elle en cette vie. Elle s'y rendit et trouva Peur, une grande corde à la main, tête nue, pâle comme un revenant. « Il ne veut que prendre congé d'elle. Qu'elle n'ait pas souci de lui et épouse M. Jens Karstadt si elle l'aime. Quoiqu'il ne puisse y survivre. Il ne veut que la prier de lui garder un bon souvenir. Adieu et grand merci pour tout. » Il se jeta dans l'herbe et sanglota. Et voyant ce grand gaillard étendu de tout son long et pleurant à rendre l'âme, Anne Malène se sentit émue et effrayée tout à la fois. La grande corde servit à unir de nouveau leurs cœurs, mais ce fut Anne Malène qui pleura le jour du mariage. De toute sa vie, elle n'avait guère réfléchi, mais elle était sûre d'une chose, c'est que si elle avait épousé Jens Karlstadt au lieu de Peur, elle n'aurait pas pleuré, mais ri. Le prêtre parla longuement sur Abraham et Sarah. Puis il demanda à Peur Tjerand Virgussen s'il voulait prendre Anne Malène pour femme. Peur le voulait. Ensuite il demanda à Anne Malène si elle voulait prendre Peur pour époux, et Anne Malène dit oui, et ce fut conclu. Elle avait fait son possible pour retarder le jour du mariage, mais Peur se montra impatient et les vieux prirent son parti. « Que d'histoire ! » dit un jour le vieux Matisse. « Crois-tu que tu gagneras quelque chose en courant après cet affamé employé des postes ? Il venait soi-disant pour arrondir un domaine, mais c'est bien autre chose qu'il pensait. » Anne Malène céda. 6 mois après, un baptême eut lieu. C'était un peu vite, mais cela arrive quelquefois, et Anne Malène s'en tourmentait peu. Les cancans du Bigde la laissaient froide. Le petit devait s'appeler Tönnes. Tjerand, c'est trop laid, dit Anne Malène. Elle devint folle de l'enfant, et lorsque Peur observa qu'il ressemblait plutôt à la mère qu'au père, Mère Astrid lui répondit « C'est ce que les premiers-nés font toujours. » Anne Malène accompagna l'enfant à l'église. Elle désira être présente pour voir que tout se passait bien. Quand la mère n'y est pas, tant d'accidents peuvent se produire. 5 enfants avaient été portés à l'église pour recevoir le baptême, et un parmi eux était officiellement illégitime. Mais le prêtre déclara que ces 5 enfants avaient été tous également conçus dans le péché et par conséquent étaient tous des enfants de la malédiction, de la colère de Dieu. Seul le baptême devait les purifier du péché originel et leur donner la félicité d'entrer dans la communion des fidèles. Il supplia Dieu d'accorder à ses 5 petits serviteurs et servantes la grâce de son baptême qu'ils étaient venus implorer et de leur ouvrir la porte à laquelle ils frappaient. Et après avoir lu les passages concernant le baptême dans le Nouveau Testament, et avoir ainsi clairement tout expliqué au jeune néophyte, il s'approcha des fonts baptismaux. « Tönnes, dit le prêtre, renonces-tu au diable et à ses œuvres ?» Oui, Tönnes y renonçait. « Tönnes, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Oui, Tönnes croyait à tout cela. Tönnes, crois-tu au Saint-Esprit, à la Sainte Église chrétienne, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, Tönnes y croyait. Veux-tu être baptisé dans cette foi? Oui, Tönnes le voulait. Et il fut baptisé. Mais lorsqu'il sentit l'eau lustrale sur sa petite tête duvetée qui n'avait vu cette froide terre que depuis 15 jours, il se mit à crier si douloureusement qu'on eût dit qu'il regrettait son ardent désir. Mais Anne Malène trouva que tout marchait à souhait pour le petit et pour elle. Et depuis ce jour, le jeune ménage s'entend très bien. Auparavant, Anne Malène avait été parfois de mauvaise humeur et Peur nourrissait des soupçons. Il rencontrait l'employé des postes souvent là où, selon lui, il n'avait rien à faire. Mais enfin, ce jeune homme quitta le pays et l'enfant naquit. Anne Malène se promène en chantant dans la ferme au milieu des servantes et des animaux. Et Peur se sent heureux de travailler tant qu'il peut pour la famille. S'il est ivre, il évite de rencontrer sa femme. « Hey, buvons, d'abord toi, puis moi. Que le diable m'emporte si Anne Malène n'est pas un trésor de femme. » Et en ceci, il a raison, dit-on. Un jour, elle s'emporta bien un peu. C'est lorsqu'elle apprit que Jens Karlstadt allait se marier. mais ce fut vite passé. Anne-Malène ne reste jamais de mauvaise humeur longtemps. Ainsi s'achève Jeunesse de Arne Garborg.